Je veux te donner la gloire pour qui tu es. Quel beau chant, n'est-ce pas? Que ce soit notre résolution en 2017. Eh bien, bonjour à tous et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année en 2017, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on souhaite la même chose à ceux qui nous écoutent par Internet. Vous avez remarqué ce matin dans votre bulletin, on vous a remis un plan de lecture biblique en 5 jours par semaine. C'est un programme que nous suivons, Lise et moi. Je suis tombé là-dessus dernièrement, et puis c'est aux États-Unis, c'est en anglais. On a envoyé un courriel, je leur ai demandé si on pouvait avoir la permission de faire traduire et tout ça, et puis on l'a traduit, on l'a mis pour vous ici en français, parce que je trouvais ça vraiment bien, on nous a donné les droits. J'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est une approche de lecture en un an et c'est une lecture chronologique selon les événements qui arrivent. Et aussi, c'est en 5 jours par semaine, donc ça vous donne une couple de jours pour vous rattraper si jamais, si vous êtes comme moi, des fois ça arrive. Et on peut se rattraper là, les fins de semaine. Donc c'est vraiment bien. Écoutez, c'est pas la loi, on vous les encourage à lire les Écritures. Et moi, en tout cas, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime l'idée d'être encadré, ça m'aide, ça me semble. C'est plus facile, c'est plus motivant pour moi. Et ça me permet de passer à travers la Bible en un an, en fait, à raison de 5 jours semaine. J'aimais bien l'approche. Il y a d'autres plans aussi que vous pouvez, si vous voulez, demander au kiosque. On a d'autres plans de lecture, mais j'ai trouvé que c'était un beau défi cette année à relever, de lire la Bible en un an, mais 5 jours par semaine. Alors, vous avez ça dans votre bulletin. J'aimerais vous parler d'un événement qui est arrivé à Montréal il y a quelque temps. Et c'est une église qui avait dans la région, ici au Québec, une église qui avait un projet, comme nous, avait un projet de construction. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé, en comité, ils ont mis un comité sur pied, un comité de construction sur pied, et ils ont décidé de visiter quelques églises qui avaient passé à travers un projet de construction, et pour voir les bons coups, les moins bons coups, les erreurs, afin de les éviter, les bonnes choses, à pouvoir, tu sais, comme ne pas oublier, penser. Donc, ils sont allés visiter certaines églises. Donc, certains membres du comité sont allés visiter une église en particulier, la région de Montréal, puis ils se sont présentés, ils ont expliqué un peu qu'est-ce qu'ils faisaient, puis c'était un service du dimanche matin. Alors, le pasteur, je ne sais pas si c'était le pasteur ou celui qui dirigeait en avant, je pense que c'était le pasteur, celui qui dirigeait, en tout cas, sur le stage en avant, a invité l'équipe qui était là ce matin-là à venir en avant. Ils les ont présentés à l'Assemblée, puis ils ont expliqué pourquoi ils étaient là, qu'ils visitaient les lieux et tout ça. Et puis finalement, le gars a dit, celui qui présidait, a dit, « J'aimerais prier pour vous et prier pour votre projet. Hey, » certainement, c'est bon, c'est qu'une autre église prie pour nous autres. Tout ça. Alors, les gars se penchent, toute l'église se penche, commence à prier. Puis en plein milieu de sa prière, le gars dit, « Je reçois une prophétie. » Wow! En plein milieu de la prière, là, « Je reçois une prophétie et vous allez avoir beaucoup de problèmes. » Il est en prière, là, il dit, « Je reçois une prophétie, Dieu me dit, vous allez avoir des temps difficiles, ça va être dur, éprouvant. Mon ami, ça va être tough. » Aïe, aïe, c'est vraiment pas encourageant. Aïe, aïe, aïe. Alors, le comité retourne à leur église et tout ça, et parle de ça aux anciens. Tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on dit en avant à l'église? Est-ce qu'on met tout en question? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Une prophétie et ça va aller mal. Ça irait pas bien. Qu'est-ce que tu fais? Alors, les anciens ont décidé, non, non. On ne remet pas tout ça en question et tout ça, on ne va pas en avant, puis tout partager ça. Non, 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 non. On continue, puis on avance. Wow! Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça a super bien été. Super de beaux projets de construction. Aucun incident, aucun problème. Ça a super bien été. Et vous savez quoi? Ils ont même commencé à construire une autre bâtisse pour une église fille, puis ça va super bien. Comment t'expliques ça? Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un vient te voir et dit, « Le Seigneur m'a dit que… » C'est arrivé à la Valesse, à notre église, un jeune homme, je pense que vous avoir déjà parlé de ça, un jeune homme s'en va voir une fille, puis le gars, il avait le kick sur la fille, puis il dit, « Elle dit, « Seigneur, me montrer que tu étais pour être ma femme. » Qu'est-ce que tu fais avec ça? Le Seigneur me dit. Aïe, aïe! Est-ce qu'on a le droit de remettre ça en question? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Des prophéties? Eh bien, on a la réponse justement dans le chapitre que nous allons regarder ce matin, dans 1 Corinthiens 14. On va regarder ça ce matin. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire ces dernières semaines, du moins juste avant les fêtes, on a arrêté. On prend ce matin, nous sommes en train de faire une série dans l'épître, dans la lettre aux Corinthiens. Et on a ouvert maintenant cette nouvelle section qui va durer trois chapitres, le chapitre 12, 13 et 14 de 1 Corinthiens. Et ces trois chapitres qui portent sur les dons spirituels. Et si vous avez manqué les sermons, les messages précédents, les explications précédentes, les commentaires sur ces chapitres-là, on vous encourage à aller sur Internet, les messages sont là et tout ça. Et on remercie toute l'équipe d'audio, audiovisuel qui travaille très fort d'arrache-pied pour mettre ça sur l'Internet. On les remercie beaucoup. Et nous sommes rentrés donc dans ces trois chapitres où Paul parle des dons spirituels. Maintenant, il faut répéter quand même que les dons spirituels, il faut savoir que chaque chrétien, chaque personne qui vient à Jésus-Christ, qui passe par la nouvelle naissance, a reçu un don spirituel. C'est quoi un don spirituel? C'est une énergie divine, une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir sa mission, pour une œuvre spéciale que Dieu veut te confier. Parce que, vois-tu, dans l'Église, et ce qu'on apprend dans le chapitre 12, c'est que dans l'Église, chaque chrétien a un don. Et la raison d'être des dons, c'est pour s'édifier mutuellement, se construire mutuellement et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. On veut ressembler de plus en plus à Jésus. Maintenant, le problème avec l'Église de Corinthe, c'est que les autres mettaient beaucoup, beaucoup d'accent sur les dons spectaculaires, les dons comme le don des langues. Ils mettaient beaucoup d'accent là-dessus, et non seulement ça, non seulement qu'ils mettaient un accent exagéré sur le don des langues, mais en plus, ils se jugeaient mutuellement selon le don que tu avais. Par exemple, ils méprisaient les autres chrétiens, membres de l'Église, qui n'avaient pas des dons extraordinaires, mais qui avaient d'autres dons spirituels, moins évidents, moins apparents. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on bâtissait l'ego, son orgueil, en fonction des dons spectaculaires qu'on avait. Alors, c'est pour ça qu'on poussait beaucoup le don des langues. C'était extraordinaire. Et on considérait vraiment comme des chrétiens de seconde classe si tu n'avais pas ces dons-là. Alors, mais imaginez, leur attitude était mauvaise de mettre un accent exagéré sur le don des langues. Mais non seulement ça, leur attitude orgueilleuse et de mépriser les autres dons et les autres frères de l'Assemblée, les autres sœurs de l'Assemblée. Si bien qu'eux autres aussi avaient un problème, les frères et les sœurs de l'Assemblée, où ils se sentaient comme des chrétiens de deuxième classe, comme pas utiles et tout ça. Alors, Paul va intervenir au chapitre 12, il va commencer dans les trois premiers versets pour montrer c'est quoi vraiment la spiritualité, qu'on ne juge pas la spiritualité en fonction du don spectaculaire que tu peux avoir. Il donne deux critères. Premièrement, que tu reconnaisses Jésus-Christ comme Seigneur, le Sauveur de ta vie, pas juste dans ta tête, dans ton cœur, ça va avoir un impact dans ta vie, il va vraiment être le Seigneur de ta vie. Et deuxièmement, par ton attitude à l'égard des autres dans l'Assemblée, à vouloir t'investir dans la vie des autres personnes. C'est ça, c'est le même qu'on reconnaît que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans ta vie. Alors, Paul va donc clarifier cette notion de ces Corinthiens qui disaient que c'était les dons spirituels et spectaculaires qui faisaient qu'ils étaient vraiment spirituels. Mais l'autre chose, il va continuer en disant, il va donner l'image du corps. Il va présenter l'Église comme vraiment un corps où tous les membres font partie du corps et le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ, comme il y a plusieurs membres dans un corps et chaque membre est utile. Et donc, il va élever tous les dons. Il va montrer l'importance des dons. Et ce qu'il va faire après ça? Il arrive au chapitre 12 et il va terminer son chapitre 12 au verset 31. Et regardez bien ce que ça dit au verset 31. Alors, 1 Corinthiens 12, 31, ça dit, « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer la voie par excellence. » Et là, ce qu'il va faire au chapitre 13, il va décrire, il va parler de l'amour, de l'importance de l'amour. Il va décrire l'amour, il montre comment l'amour, c'est ce qui est le plus important. Tu pourrais avoir des dons les plus spectaculaires, inimaginables. Si tu n'as pas l'amour, ça ne donne absolument rien. Et il va donc parler de l'amour au chapitre 13. Il faut se rappeler maintenant que le chapitre 13 s'inscrit, alors ce chapitre sur l'amour s'inscrit à l'intérieur de trois chapitres qui parlent des dons de l'esprit. Alors, il va commencer sur l'amour dans le chapitre 13. Il parle, tout le chapitre va parler de l'amour. Et c'est ce qui est le plus important au sein d'une église. Il y a plus de deux siècles, Jonathan Edwards a posé une bonne question. Il dit, qu'est-ce qui rend l'église comme le ciel? C'est l'amour. Il dit, la plus grande preuve que le ciel a envahi notre sphère, que l'Esprit Saint s'est répandu sur nous, c'est bien par notre amour les uns pour les autres. Alors, après avoir parlé et décrit l'amour tout au long du chapitre 13, il commence maintenant au chapitre 14. Alors, pris dans son contexte, le chapitre 14 va nous montrer comment l'amour, tel que défini dans le chapitre 13, fait toute la différence sur notre façon d'exercer notre don spirituel, surtout avec les dons de parole. Paul nous montre comment l'amour fait du bien aux autres. L'amour, même d'ailleurs jusqu'au chapitre 8, quand on regarde le chapitre 8 commence en disant « L'amour édifie, mais la connaissance enfle. » L'amour édifie. L'amour s'intéresse aux autres et cherche à édifier les autres. Alors, Paul va nous montrer dans le chapitre comment le don de prophétie est supérieur aux autres dons, car il construit et il édifie les autres, alors que ce don en particulier, c'est-à-dire le don de prophétie, s'intéresse et se soucie des autres comme l'amour cherche à le faire. Alors ça va être la première partie du chapitre 14, versets 1 à 25. Première partie, Paul va enseigner ceci. Il dit « L'amour incite à se servir de son don pour édifier les autres. » Alors, versets 1 à 25. « L'amour incite à se servir de son don pour édifier les autres. » Paul va continuer, il va nous montrer maintenant comment l'amour s'exprime le mieux et avec plus de respect dans une assemblée ordonnée. L'amour s'exprime le mieux avec plus de respect dans une assemblée ordonnée. Ça, c'est la seconde partie du chapitre 14, versets 26 à 40. On peut donc résumer tout le chapitre avec l'idée suivante. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'édifions-nous les uns les autres avec amour. Édifions-nous dans l'amour. Et tout le chapitre nous explique comment. En se servant de nos dons pour édifier les autres et avoir un service de célébration qui est ordonné. C'est vraiment intéressant parce que certaines notions, certains chrétiens vont dire « Ah, il faut que tu laisses l'esprit agir, il ne faut pas que c'est trop organisé, etc. Et » c'est le contraire, l'apôtre Paul montre que c'est encore plus spirituel et plus mature d'être encadré et bien organisé. C'est une marque de maturité et de spiritualité, cela. Les Corinthiens se voyaient très matures et très spirituels. Alors, Paul va même commencer sa lettre dès le début, on l'a vu à quelques reprises, dans 1 Corinthiens chapitre 3, qui dit ceci. Laissez-moi vous présenter 1 Corinthiens chapitre 3. J'en ai manqué quelques-uns. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme des personnes dirigées par leur propre nature, comme à de petits enfants en Jésus. Puis il va le répéter dans le chapitre qu'on va voir ce matin, chapitre 14. Il va le répéter au verset 20. Il dit, frères et sœurs, il dit, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés, mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Leur immaturité se voit sur l'accent qu'ils mettent sur le don des langues. Et c'est ce qu'on va voir au chapitre 12. Dans le fond, au chapitre 12, c'est don des langues et prophétie. Don des langues, prophétie. Paul met de côté les autres dons et ne parle pas mal essentiellement de ces deux dons. Il met ces deux dons-là et il met le don des prophéties là. Alors, en d'autres mots, il fait le contraire de ce que les Corinthiens faisaient. Il met les prophéties en première ligne. Alors, Paul fait ce contraste des deux dons parce que c'est le problème à Corinthe. Paul renverse l'ordre et nous dit que c'est le don de prophétie qui est supérieur aux langues. Ce n'est pas qu'il condamne les langues. Il n'est pas en train de condamner les langues, mais il est en train de condamner l'accent que les Corinthiens mettaient sur les langues et comment ils le jugeaient de la spiritualité de chacun par ses dons miraculeux. Et Paul est en train de dire, non, Vraiment, là, vous êtes, c'est à l'envers, cette affaire-là. Alors, la prophétie est le don qui touche les vies et les cœurs pour les emmener au pied de la croix. C'est quoi une prophétie? On l'a vu il y a quelques temps. On a fait une série, d'ailleurs, sur les dons de l'Esprit, puis on l'a répété dernièrement, au chapitre 12. C'est essentiellement, c'est très varié, la prophétie. D'ailleurs, ça peut s'exprimer à travers un témoignage, un partage, ça peut être un message, un sermon, ça peut se manifester dans l'enseignement. C'est très varié. C'est donner une parole, c'est parler de Dieu aux hommes et aux femmes. C'est essentiellement ça. C'est dit au plus simple. Alors, puisque l'amour édifie, Paul, au chapitre 8, dit le don qui en fait le plus pour les autres, c'est la prophétie, parce qu'elle bâtit l'Église, à moins qu'il y ait un interprète, parce que là, tu es rendu au même niveau que les prophéties, où tu es en train vraiment de parler aux gens d'une façon intelligente et intelligible. Alors, Paul va donc donner trois raisons pour lesquelles les prophéties sont supérieures aux langues. Alors, on va lire ensemble les trois premiers versets. Et on ne lira pas tout le chapitre, je vous dis, on va juste parcourir certains versets et je vais les commenter de temps en temps parce que ce n'est pas un chapitre facile. Okay? Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, on va juste lire les trois premiers versets puis on va lire les autres plus tard, mais je vais les commenter entre-temps. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour. Alors, il vient de finir le passage sur l'amour. Alors, il dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout aux dons de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage, les réconforte. Alors, on va arrêter là pour le moment, puis on va continuer tantôt avec les versets qui suivent, d'accord? Le don de prophétie est supérieur, car il parle de Dieu aux hommes pour les édifier, les encourager et les réconforter. C'est essentiellement ça, le don de prophétie. Ça peut être un partage, ça peut se manifester à travers un sermon, un témoignage, etc., où tu communiques, un message aux gens de la part de Dieu. Deuxièmement, ce don est dirigé vers l'Église. Alors, ça se dirige aux gens, dans le but d'édifier, d'instruire les autres. Le verset 4 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. » Mais dans l'Église, il dit, « J'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. » En d'autres mots, vous cherchez à édifier les uns les autres. C'est ça le but de l'Église, le rassemblement de l'Assemblée, là, ici. En d'autres mots, le service doit être intelligible. Et c'est la nature même de ce don que d'être édifiant pour l'Église, la nature du don de prophétie. Et c'est ce que l'amour fait. L'amour édifie. Verset 5, Paul dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive une édification. Et maintenant, frères et sœurs, en quoi vous serais-je utile si je venais vers vous en parlant en langue? Alors, troisième raison pourquoi la prophétie est supérieure, ce don est le plus utile dans la proclamation de l'Évangile aux auditeurs non-croyants, alors aux non-chrétiens. Verset 23 dit ceci dans le même chapitre, « Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? En revanche, si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous et il est jugé par tous. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés et il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé avec vous lorsque vous avez entendu l'Évangile, où Dieu est venu vous rencontrer, parler à votre cœur? Moi, je me rappelle, ma femme et moi, dans ce temps-là, c'était ma copine, c'était un de mes clients qui m'avait parlé de l'Évangile. Et lorsqu'ils m'ont présenté l'Évangile, lui et sa femme, on est retourné, on est allé se coucher, puis on s'est mis à genoux. Dieu avait parlé à nos cœurs, on était comme, on fondait, là. Il y a quelque chose qui venait de se produire dans nos cœurs. Et c'est ce que ça fait, ça, lorsque tu prêches, lorsque tu présentes la parole de Dieu. Parce que la prophétie, lorsqu'elle est proclamée, lorsque le message de Dieu est proclamé avec la puissance de Dieu, va toucher les cœurs. Elle conduit les cœurs vers la croix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a cette capacité de toucher le cœur, de toucher des vies, de dévoiler les cœurs et d'interpeller les cœurs à se rendre, s'agenouiller devant la croix. D'ailleurs, l'histoire de l'Église le démontre bien. On apprend que les grands réveils spirituels à travers l'histoire de l'Église, il y a eu des milliers de personnes qui sont venues du Seigneur, qui sont venues au Seigneur, qui sont converties. Des gros réveils incroyables. Et ça n'a pas été handicapé par des prédicateurs qui ne parlaient pas en langue, ni leur Église ne parlait pas en langue. Ce n'est pas que Paul est en train de condamner les langues, mais juste pour vous donner un exemple ici de la supériorité de la prophétie. À travers l'histoire, il y a des gens qui ne parlaient pas en langue. Charles Spurgeon, Charles Wesley, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, des prédicateurs, ils prêchaient l'Évangile, puis des milliers, des millions de personnes sont venues au Seigneur. Et ils ne parlaient pas en langue, leur Église ne parlait pas en langue, et ça n'a pas été un handicap pour l'œuvre puissante de Dieu. Si on prend Charles Spurgeon, par exemple, Charles Spurgeon, il a eu un ministère, il a commencé dans la vingtaine, son ministère, puis son ministère a duré une quarantaine d'années, puis au fil des années, leur Église a baptisé plus de 15 000 personnes. Ils ont commencé 66 ministères par ecclésiastique, dont deux orphelinats, une école biblique. Et à travers tout son ministère, à une époque où il n'y avait pas de télévision, pas de radio, pas d'Internet, Charles Spurgeon a prêché a présenté l'Évangile à plus de 10 millions de personnes. Alors Dieu s'est servi grandement et puissamment de plusieurs personnes et églises. Qui ne parlait pas en langue. Et ça n'a pas été un handicap du tout de voir la puissance de Dieu. Donc, on ne veut pas condamner les langues. Paul ne condamne pas les langues. Mais Paul est en train de dire, écoutez, les prophéties, c'est supérieur parce que vous parlez directement aux gens et c'est le but des dons de l'Esprit d'édifier l'Église. Et c'est ce que l'amour va faire. L'amour incite le croyant à se servir de son don pour édifier les autres au sein de l'Église. C'est le message que Paul nous livre dans les 25 premiers versets du chapitre 14. L'amour incite à servir de son don pour édifier les autres. Deuxième portion du chapitre, l'amour s'exprime le mieux, c'est ça que Paul va dire, l'amour s'exprime le mieux avec plus de respect dans une assemblée qui est ordonnée. Versets 26 à 40. Maintenant, regardez bien le verset 26. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Paul vient de montrer la supériorité des prophéties. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on gère tout ça? Comment on fait l'Église? How do we do church? Comment on gère ça les dimanches matins, la célébration dimanche matin? Alors, Paul va donner ici un guide, un conseil. Alors, que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Alors, voici comment gérer, organiser vos services, d'accord? Alors, que faire donc, verset 26, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Maintenant, les églises ont changé, les formes d'églises ont changé au fil des années. Puis quand tu es rendu dans une église comme la nôtre, avec 500, plus de 500 personnes, c'est évident que la formule va changer. Et ça a changé à travers l'histoire de l'Église. Donc, nous, on n'est pas équipés de pouvoir partager tout ça. On le fait plutôt dans les groupes maison. Dimanche matin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ces temps de louange ensemble, on a des temps de partage ou des temps de prédication en avant. Mais dans les groupes maison, là, ces temps-là, dans les groupes connexion, on se retrouve ensemble, une cinquantaine. Mais c'est difficile dans une grande assemblée, tu ne peux pas avoir cette structure-là. Alors, on s'accommode à l'œuvre de l'Esprit qui sauve des gens puis ajoute de plus en plus. Il faut que tu t'accommodes. Moi, je sais une chose, c'est des fois, on va demander aux gens de prier librement dans l'assemblée, puis je peux vous garantir ceci, on se fait reprocher constamment. La personne qui prie là n'est pas comprise par les personnes qui sont là. Alors, ils disent « Amen » par la foi. Ils n'ont aucune espèce d'idée de ce que tu viens de demander. Alors, ce n'est pas commode. Alors, on s'accommode, on planifie, on s'ajuste en fonction de la bénédiction de Dieu qui touche les cœurs. Mais dans ce temps-là, on se réunissait dans des maisons. On n'avait pas le droit, on n'avait pas le droit de se réunir dans des bâtisses. C'est devenu plus tard, ça. On se réunissait dans des maisons, donc on était 30, 50, 60 personnes. Alors, c'est faisable. Je suis déjà, en implantant une église, on était dans une église très petite, on louait une garderie, on était juste une trentaine. La formule était différente. Mais enfin, alors Paul enseigne ici. Et ce que Paul est en train de dire essentiellement, et c'est ça qu'on veut retenir, c'est le principe, ce n'est pas la forme, on veut retenir le principe ici. Et la façon de s'assurer que ce sera édifiant dans l'Église, pas les entraînés, c'est en mettant de l'ordre dans le service de célébration. Verset 27, il dit, « Y en a-t-il qui parlent en langue, que deux ou trois au plus parlent? » Vous voyez, Paul est en train de limiter, il est en train de dire un maximum de trois personnes, après ça, ça arrête là. Même chose pour les prophètes, il dit pour les prophéties. Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Vois-tu, Paul n'était pas du tout en train de nuire à l'œuvre de l'Esprit, de faire taire certaines personnes. Absolument pas. Ce n'est pas un manque de spiritualité ou de consécration. Au contraire, Paul, c'est un apôtre. Il n'y a pas de plus spirituel que lui. Et il est inspiré par Dieu, puis il dit que ça cesse. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Assemblée, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors, Paul ne se gêne pas de mettre des limites, de freiner des gens dans leur partage. Et ce qu'on apprend, c'est une marque même de spiritualité, c'est une marque d'amour, parce que ça s'inscrit à l'intérieur du chapitre 13. C'est d'avoir de l'amour et du respect pour les autres et de s'édifier mutuellement lorsqu'on met de l'ordre dans l'Assemblée. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Maintenant, Paul ne se gêne pas de mettre des balises. Et c'est la même chose en passant pour les prophéties. Verset 29, il dit « Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. » Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits, que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Maintenant, quand on parle de prophètes et prophéties, il faut que j'ouvre une parenthèse. Il faut comprendre. Wayne Grudem a écrit un livre, et j'aimerais vous le montrer si jamais vous êtes intéressé à le lire. C'est en anglais, malheureusement. The Gift of Prophecy. The Gift of Prophecy in the New Testament and Today. Alors, le don de prophétie dans le Nouveau Testament et aujourd'hui. Il a fait sa thèse, justement, sur la question du don de prophétie. Et ça a été mis en livre. Il a écrit un livre là-dessus. Plus tard, ça a été réédité dans les années 2000. D'ailleurs, Don Carson, dans un article qu'il a écrit, a dit que la position de Wayne Grudem sur les prophéties est la plus solide. Donc, c'est vraiment bien. Alors, voici en gros ce qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, tu avais deux genres, dans le fond, de prophéties. Tu avais le prophète qui disait mot à mot une révélation qui venait de Dieu. Alors, c'était mot à mot. C'était Dieu qui parlait à travers lui. D'ailleurs, ces prophéties-là, qu'il recevait mot à mot, ont été placées dans le canon des Écritures. C'est devenu la révélation de l'Ancien Testament. On pense à Isaïe, etc. La façon de reconnaître que c'était du mot à mot qui venait de Dieu, qu'il fallait prendre ça vraiment au sérieux, tu ne questionnais pas ça, tu ne contestais pas ça, c'est qu'il commençait habituellement sa prophétie avec une formule d'introduction qui disait « Ainsi parle l'Éternel ». Ouf! Quand le prophète disait ça, il ne commençait pas à dire « Ben, tais-toi ». Non, non, c'est Dieu qui parlait. C'est Dieu qui donnait une révélation, alors tu écoutais, puis à la lettre. Si bien maintenant qu'il y avait une grosse charge, une grosse responsabilité pour ce prophète-là, il ne fallait pas vraiment qu'il se trompe, parce que si ça donnait qu'il faisait une prédiction dans sa prophétie, on le tuait. Puis ça, il y avait une erreur, ça ne se faisait pas, on le tuait. On le mettait à mort, on le lapidait. C'était très sérieux. Alors quand le prophète disait « Ainsi parle l'Éternel », tu ne questionnais pas ça, tu obéissais ça à la lettre parce que c'était la parole de Dieu qui se révélait. Maintenant, il y avait un autre genre de prophétie que la personne n'introduisait pas sa prophétie en disant « Ainsi parle l'Éternel ». C'était un partage, c'était un message, etc. Donc, peut-être que Dieu lui avait mis comme à cœur de parler sur la repentance, il voyait du péché, etc. Mais les mots n'étaient pas inspirés, son message n'était pas inspiré directement de Dieu comme du mot à mot. Il partageait un message, une parole, et tu étais moins sévère avec celui-là. Et non seulement ça, si, premièrement, ce n'était pas une prédiction de l'avenir, et je vous ai déjà expliqué que le prophète, seulement 10% du ministère des prophètes de l'Ancien Testament qui proclamait la parole de Dieu mot à mot, représentait une prédiction. Donc, le 90% de leur ministère, c'était un message qu'ils donnaient. Mais même à l'autre genre de prophétie, celui qui n'était pas mot à mot, celui qui n'était pas introduit par « Ainsi parle l'Éternel », lui, tu le questionnais. Tu voulais t'assurer, tu évaluais, tu voulais t'assurer que c'était bien le message que Dieu avait mis sur son cœur. Donc, tu le questionnais, tu l'évaluais, tu le testais. Puis si jamais il parlait, il disait quelque chose, puis ça ne se réalisait pas, bien, tu ne le mettais pas à mort, parce que c'était dans un autre genre de catégorie. Et ça, ça s'est suivi jusqu'à l'époque, même après l'exil, lorsque les Juifs ont commencé à mettre sur pied des synagogues. Ce qu'on a fait, on continuait, on évaluait les commentaires bibliques qui se faisaient, si bien que tu avais ces docteurs, ces anciens responsables des synagogues juives qui étaient assis en avant et il n'y avait pas de rabbin payé à temps plein, donc c'était soit des itinérants qui se promenaient, des prédicateurs, commentateurs qui se promenaient, qui étaient invités, ou des gens de l'Assemblée qui se levaient, allaient en avant, lisaient un passage des Écritures et donnaient un commentaire. Si c'était correct, si c'était biblique, si c'était kasher, si c'était correct biblique, ce que tu disais à la fin, ces docteurs qui étaient assis à la première rangée disaient « Amen ». Amen. Ils étaient quelques-uns, ils disaient Amen. Amen. Alors, oui, c'est la vérité, ça, c'est correct, on approuve. Quelle ne fut pas la surprise quand Jésus est entré dans une synagogue, va en avant pour lire et commenter, et commence lui-même en disant Amen. Amen. Il commence en disant en vérité, je vous le dis. Les docteurs sont assis en avant, sont stupéfaits. Les gens dans l'Assemblée disent, aïe, lui, il parle avec autorité, il ne parle pas comme les autres. Lui a pris l'autorité sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus détient la vérité, n'est-ce pas? Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, en d'autres mots, parole de Jésus égale parole de Dieu. Alors, Jésus avait une autorité parce que c'était lui la vérité, finalement. C'était la parole de Dieu. Alors, cette habitude, cette coutume, c'est à continuer dans les églises, parce, surtout qu'il y avait des prophètes itinérants. On ne pouvait pas se permettre quelqu'un à temps plein. C'est des petites églises de 30 personnes, 40, 50. Alors, on ne pouvait pas toujours avoir quelqu'un dédié à temps plein qui étudiait les Écritures, etc. Donc, tu avais ces prophètes itinérants qui se promenaient d'église en église. Il y avait beaucoup d'églises qui commençaient. On n'avait pas le temps de les former, tout ça. Donc, c'était des jeunes églises. On envoyait des gens. Ou même des gens de l'Assemblée qui se levaient et partageaient un message. Donc, on avait donc continué cette habitude d'évaluer les prophéties. Maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, les prophètes de l'Ancien Testament qui avaient des prophéties mot à mot, ainsi parle l'Éternel, ont été remplacés par les apôtres. Les apôtres, eux, avaient cette inspiration mot à mot de Dieu et nous avons leurs écrits aujourd'hui, notamment le Nouveau Testament. Alors ça n'existe plus. On n'a plus de message mot à mot de Dieu. La révélation a été donnée une fois pour toutes. Nous l'avons entre nos mains. Dieu merci, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui reste et ce qui restait, par contre, c'était l'autre genre de prophétie où c'était un partage, un message. Et tu devais continuellement surveiller, examiner, tester pour savoir si c'était dit, c'était bien selon les Écritures saintes. Regardez quelques versets. On est encouragé, et dans le chapitre 14 qu'on vient de lire, et ailleurs, on voit ça, n'est-ce pas, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est la parole de Dieu, ça. Et là, Paul va nous encourager à tester, à évaluer les prophéties qui sont dites. On a l'exemple dans 1 Jean 4, qui dit ceci, « Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. » pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Il continue d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Et il continue encore, un autre passage qu'on a dans, j'en avais un troisième, mais c'est correct, je ne le vois pas. Paul est en train de nous dire, qu'il faut remettre en question. Donc, la fameuse histoire que je vous ai racontée au début de la construction, là, où le gars a mis en question cette prophétie qui disait que c'était pour aller mal la construction, etc. Il a bien fait, dans le fond. Il a bien fait parce que lui, dans son cœur, et dans les anciens, dans le cœur des anciens, eux autres, ils voyaient, ils ont fait leur devoir et tout ça, puis ils étaient convaincus dans leur cœur que c'était le temps d'aller de l'avant. Et Dieu a béni ce projet-là. Donc, c'est correct et c'est même notre devoir de questionner, d'éprouver ce qui est dit, est toujours à la lumière des Écritures saintes. Les Écritures saintes sont l'autorité finale. On ne se laissera pas impressionner par qui que ce soit qui va se lever puis qui dit l'Éternel me dit. Je parle au nom de l'Éternel. Non, 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 je m'excuse. Non. Ce n'est pas un manque de spiritualité. Au contraire, Paul dit, ce qui est une marque de maturité et de spiritualité, c'est de tout questionner et d'examiner pour savoir si c'est à la lumière des Écritures. Et ça, c'est une affaire très, très, très importante parce que combien de chrétiens au fil des années se sont laissés impressionner par des gens qui disaient, qu'ils parlaient, que Dieu avait, leur avait dit que... Non, je regrette. Moi, je regarde les Écritures. C'est ça l'examen final, finalement. Mais ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Et regardez d'ailleurs ce que Paul est en train de dire. Pensez-y, là. Paul est en train de dire, bon, il y a un gars qui se lève, ou une femme se lève, commence à prophétiser, puis s'il y en a un autre qui veut, qui a quelque chose à cœur, veut partager, que le premier se tête, que ça soit. Posez-vous la question, c'était du mot à mot une révélation de Dieu. Est-ce que tu dis à Dieu de se taire? Ben, tais-toi donc, Seigneur. Là. Tais-toi. Moi, j'aimerais dire quelque chose dans l'Assemblée. Paul ne dirait jamais à la femme. Tu disais ça à quoi? À l'autre forme de prophétie que tu évaluais. Ce n'est pas une prophétie mot à mot. Vous voyez? L'évaluation des prophéties va expliquer la suite du passage. Et, ah, mon Dieu, ça, c'est tout un passage. Sur les femmes. Ah, mon Dieu. J'en ai presque pas dormi la nuit. Quelques féministes. Tu veux être correct, tu veux être respectueux, tu veux faire attention, puis tu ne veux pas. Quelques féministes appellent les versets qui suivent, et dans 1 Timothée 2 aussi, les versets de terreur. Mais il faut comprendre ces versets-là dans le contexte. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu prendre le temps de t'expliquer la question des prophéties avant. Verset 33. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées. Oui, mon Dieu, hein? Oui, c'est dur. C'est dur quand on ne comprend pas. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme aussi le dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il était inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Ce n'est pas le temps de finir le sermon comme ça et de m'en aller. Là, c'est comme... Maintenant... Comprenons le contexte. Paul n'est certainement pas en train de dire que la femme, que c'est d'une manière absolue, la femme ne doit pas parler. Absolument pas. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible ne se contredit pas. Si la Bible dit quelque chose à quelque part, et ça semble être une contradiction ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On sait que c'est absolument impossible que Paul serait en train de dire que la femme se taise et ne parle jamais dans l'Assemblée. Vous savez pourquoi? Parce que juste quelques chapitres avant, au chapitre 11, parle, encourage les femmes à prophétiser dans l'Assemblée et à prier dans l'Assemblée. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire ça. Il y avait des femmes prophètes dans l'Ancien Testament, puis des exemples comme la prophétesse Myriam dans Exode 15, Déborah, une prophétesse, et même était juge en Israël, la prophétesse Hulda dans Deux Rois, même Pierre, lorsque Pierre explique ce qui se passe dans Acte 2, l'Esprit-Saint descend, il cite Joël, qui est une prophétie que lorsque l'Esprit-Saint descendrait, viendrait sur chaque croyant, le Saint-Esprit descendrait sur les femmes et les hommes, et vos filles prophétiseront comme vos garçons, vos fils prophétiseront. Donc les femmes, c'est être rempli de l'esprit, les femmes prophétisent, partagent la parole de Dieu. Luc mentionne dans Acte 21 que l'évangéliste Philippe avait 4 filles célibataires et elles étaient tous, les 4 étaient prophétesses. On trouve d'ailleurs plusieurs exemples de femmes qui reçoivent des éloges au cours du Nouveau Testament pour leur ministère public. On pense notamment à Aquila et Priscille dans Acte 18 qui ont pris Apollos et lui a enseigné correctement l'évangile. Et dans Romains 16, 3, Paul nomme Priscille, il l'appelle un compagnon d'œuvre. Dans Philippe 4, 3, Paul mentionne Évodie et Syntyche et il dit qu'elles ont combattu pour l'évangile avec Paul. C'était des évangélistes. Alors, on voit les femmes avoir un ministère public dans le Nouveau Testament. La question n'est pas là, là. C'est pas ça que ça veut dire. Alors, gloire à Dieu pour le ministère des femmes. Gloire à Dieu pour vous, mesdames. Vous savez, John Piper disait qu'il y a 4 femmes missionnaires célibataires pour un homme missionnaire célibataire. Et le taux monte dans des endroits encore plus dangereux. Il y a encore plus de femmes que d'hommes. Alors, gloire à Dieu pour elles. Elles ont du courage. Elles vont en mission. Vous êtes une force dans l'Église. Alors, ça veut dire quoi, ça, d'abord? C'est Paul n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire quoi? Paul vient de parler de l'évaluation des prophéties. Et c'est ce qu'il est en train de dire à l'endroit des femmes. Donc, Paul, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi de confier la responsabilité de surveiller la doctrine, la saine doctrine au sein de l'Église, entre les mains des anciens dans l'Église. Alors, on le voit ça dans les Écritures. On a élaboré un peu toute cette question-là quand on a regardé 1 Corinthiens 11. Donc, si vous voulez retourner, regarder, écouter ça, le message d'1 Corinthiens 11, on parle de cela. Donc, c'est cette période d'évaluation des prophéties dont on venait de parler tantôt. Elle est remise, elle n'est pas remise aux femmes, elle est confiée aux hommes. Et ce n'est pas une question d'intelligence. On le sait à l'école maintenant, hein, vous savez, ça dépasse à tous les niveaux maintenant scolaires, que ce soit du primaire jusqu'à l'université. Les femmes ont des meilleures notes, ça roule, ça va bien. D'ailleurs, il y a d'autres explications, les experts se penchent là-dessus, on n'a pas le temps de regarder ça ce matin. Mais ce que ça dit, c'est qu'intellectuellement, ça tire, là. Vous tirez les femmes, ce n'est pas un problème, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas une question de capacité, d'intelligence. Vous avez les mêmes dons que nous. Alors, toute personne dans l'Église a les dons, que ce soit des hommes et des femmes. C'est une question de fonction. Et même la responsabilité des anciens, ce n'est pas donné à tous les hommes. Il y a des critères et c'est donné à quelques hommes. Donc, même là, c'est restreint. Et Kathy Keller, la femme de Tim Keller, écrit un bon livre qui s'appelle « Jesus, Justice and the Gender Role ». C'est vraiment bien où elle encourage les femmes à assumer pleinement avec joie leur ministère, puis d'y aller. Elle explique un peu aussi cette position-là, ce passage-là, et dans Timothée aussi. Mais elle explique, écoutez, dans sa souveraineté, Dieu a choisi de travailler comme ça. Comme dans l'Ancien Testament, on confiait à la tribu de Lévi. Ce n'était pas à toutes les autres tribus. Ce n'est pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres tribus. Dieu avait choisi dans sa souveraineté de confier à la tribu de Lévi, aux Lévites, la mission de s'occuper du temple. Donc, on ne sait pas pourquoi, c'est dans sa souveraineté, mais ce qu'on sait, c'est qu'à chaque passage qu'on va parler du rôle de la femme, que ce soit dans Éphésiens, Timothée et dans 1 Corinthiens 14, on va toujours remonter à la création. Que à même lorsque Dieu a fait la création dans les premiers chapitres de la Genèse, à même la création, il a choisi, il a confié dans sa souveraineté des rôles. Et pour la femme, et pour les hommes, et on se complète. C'est pour ça qu'on a une approche qu'on appelle complémentarienne. C'est qu'on se complète. On ne parle pas d'égalité de rôle. On est égal dans tous les niveaux, mais on ne parle pas d'égal ici. Puis on parle de fonction, et Dieu a confié cette fonction-là, d'évaluer la doctrine au sein de l'Église, aux anciens de l'Assemblée, à l'Église. Paul vient de demander donc d'évaluer l'enseignement. Les Écritures, tous les enseignements qui sont faits au sein de l'Assemblée. Et Paul dit, comme il convient à la loi, et à la loi, ça fait référence à Genèse 2, la création. Maintenant, ça ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas apprendre. Ils disent, apprenez. Paul dit qu'elles apprennent, et ça, c'était déjà révolutionnaire à l'époque. Paul dit, prophétisez. Est-ce que c'était révolutionnaire à l'époque? Parce que vous savez, dans toutes les grandes ecclésias, dans les grandes assemblées publiques, la femme n'avait pas le droit de parole. Alors que Dieu, lui, renverse tout ça, puis dit, les femmes, allez-y, prophétisez, priez, partagez. Maintenant, Paul va conclure en réitérant l'autorité finale de la parole de Dieu sur les prophéties des chrétiens. Parce que les commentaires, les Corinthiens, ce qu'ils disaient, c'est « Ouais, mais regarde, nous autres, là, on a autant d'autorité que toi. Nous autres, on reçoit des prophéties. » Puis, dans le fond, ils étaient en train de se mettre au même rang, au même titre que ces prophètes-là de l'Ancien Testament, « Ainsi par l'Éternel. » Alors, Paul va leur dire « Non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même autorité. » Alors, il va leur dire au verset 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'ils reconnaissent dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. » Et T. Sultan, dans son commentaire, explique qu'il voit cette phrase-là ailleurs. Et ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un ignore la parole de Dieu, bien, il sera ignoré. En d'autres mots, on ne se fiera certainement pas à lui, parce que ça ne vient pas de la parole de Dieu, et donc ce n'est pas l'autorité. D'accord? On ne chambardera pas tout ici parce que quelqu'un va se lever et va dire « Ainsi parle l'Éternel ». Non. Paul, c'est justement ce qu'il est en train de dire. Il sera ignoré si ça va à l'encontre des Écritures. c'est l'autorité finale. Alors, le message de tout ça, on a passé à travers, on a survécu, c'est qu'on veut prendre la Sainte-Seine ce matin pour célébrer cette famille, pour célébrer les enfants de Dieu, on est une famille, vous avez un don. Alors, le message de Paul, c'est édifions-nous les uns les autres dans l'amour. D'accord? Alors, je vais inviter mes chers frères, à venir distribuer les éléments de la Sainte-Seine.